Ah oui, oui. Vous débarquez de Paris?
De Paris.
Ah oui, d'accord.
Moins d'une heure. Excusez-moi. Ouais, parfait, merci.
Hop. Donc, on va d'abord s'intéresser évidemment à l'Arabe du futur 2. Est-ce que c'est
le livre aux questions
Est-ce que c'est le début Est-ce que c'est le début de la guerre en Syrie qui a déclenché votre envie de présenter cette votre jeunesse?
Comment réagissez-vous au tirement actuel de Charlie Hebdo? J'étais sûr qu'il allait avoir cette question. Ah, ça, j'ai eu droit à chaque fois. Alors, oui, vous allez dire, vous m'avez posé quoi comme question?
Est-ce que c'est la guerre en Syrie qui a déclenché votre envie de décrire votre jeunesse dans l'Arabe du futur?
Eh bien oui, je tournais autour de l'idée de raconter ces années au Moyen-Orient depuis des années.
Ouais.
Et j'avais du mal à trouver le bon ton, la bonne forme, le bon angle. Et c'est aussi parce que je ne savais pas comment finir vraiment trop l'histoire. Et quand la guerre civile a commencé en Syrie, j'ai dû aider une partie de ma famille qui habitait encore à Homs, à venir en France. J'ai eu beaucoup de difficultés et en fait, ça m'a donné envie de me lancer. Enfin, c'est ce qui était le déclencheur de cette bande dessinée, pour en arriver au moment où j'allais raconter ça.
Vous décrivez une jeunesse qui est quand même plutôt ignare, qui lit des versets sans les comprendre. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vraiment ressenti ou bien vous avez grossi les traits?
C'est-à-dire que moi, dans ma façon de raconter une histoire, c'est quand même très subjectif. C'est-à-dire, je retire mes lunettes, je vais prendre une photo. Dites-moi, parce que je suis extrêmement coquet, donc...
C'était joli.
Je ne sais plus ce que je disais. Oui, c'était subjectif et que je n'ai pas la prétention de... En fait, je n'ai pas la prétention de faire un livre définitif sur le monde arabe, par exemple.
Voilà. Ouais.
C'est-à-dire, moi, je parle d'un petit village à côté de la ville de Homs, qui est un village paysan, et à travers le prisme de la vie intime de ma famille. Voilà. Je laisse le lecteur, après, se faire son idée. Bon, souvent... on a souvent la tentation, et notamment avec le monde arabe, mais je ne sais pas pourquoi, de vouloir toujours généraliser, de penser que c'est que... Bon, il se trouve que dans mon village, ça se passait comme ça. Les petits-enfants, c'était la première année où ils allaient à l'école, donc forcément, ils étaient un peu ignares de toute chose.
Ouais.
Et ce qui m'intéresse, c'est de montrer ce qu'on leur apprenait ou ce qu'on ne leur apprenait pas, et la façon dont on les traitait, justement, pour les préparer à devenir des adultes plus tard.
À la lecture des deux premiers tomes, on se rend compte que vous décrivez une enfance qui n'est pas forcément reluisante. Est-ce que vous avez aimé votre jeunesse ou pas?
Je pense que j'ai le sentiment que la vie est toujours un peu... elle n'est jamais ni positive ni négative. Enfin, elle contient de la peine et de la joie. À la fois, moi, je pense que j'ai eu une enfance intéressante. En tout cas, pour moi, elle m'intéresse. Parce que je crois que, comme je le raconte dans le livre, mon père, qui venait d'un milieu paysan, était devenu docteur en histoire. Normalement, aurait dû nous faire vivre sa famille selon la classe sociale où il était arrivé. C'est-à-dire que normalement, on aurait dû habiter, normalement, c'est-à-dire en suivant un parcours classique, on aurait dû habiter à Damas ou au moins à Homs.
Ouais.
Sauf que mon père, lui, voulait retourner dans ce village, que donc j'ai vécu avec des petits-enfants paysans d'une classe sociale plus pauvre.
Ouais.
Donc j'ai vu des choses que je n'aurais pas dû voir. Et ce que j'ai vu, la façon dont les gens vivaient, ces gens-là ne peuvent jamais vraiment en témoigner parce qu'ils n'accèdent jamais aux médias ou ils n'accèdent jamais à suffisamment d'éducation pour en faire des livres, etc. Donc on a souvent tendance à penser que ça n'a pas existé, etc. Mais voilà, et moi je tenais vraiment à raconter comment ça se passait, comment les gens se parlaient, comment les gens vivaient. Et maintenant je pense que c'est terminé. Il y a quelques temps, je suis retourné voir mon village sur Google View. C'est la seule façon que j'avais d'y retourner. C'était des photos qui avaient été prises avant la guerre.
Ouais.
Et dans le second volume de l'Arabe du futur, je raconte qu'à un moment, sous le château d'eau, il y avait une énorme décharge. C'était là où les gens foutaient toutes les ordures et les gamins passaient leur temps à explorer la décharge, à la recherche de lingots d'or, je sais pas quoi. C'est ce que je raconte dans mon livre. Et je suis retourné avec Google View sur la place
ouais.
On voit très bien le château d'eau, on voit très bien le truc. Et en fait, à la place, là où la décharge, en fait, ils ont fait un jardin public maintenant. Et c'est-à-dire qu'en fait, le temps passé a été gommé, comme si jamais rien ne s'était passé là avant.
Ouais.
Je trouve ça intéressant de raconter, en fait, avant, c'était pas comme ça, et maintenant, on fait comme si ça n'a jamais existé, mais voilà, moi, je raconte une époque qui existe encore dans l'esprit de beaucoup de gens, en fait.
Ouais, votre livre prend une valeur d'archive, alors, en quelque sorte.
Ça n'est pas à moi de le dire.
Venons-en à votre père, vous le décrivez de manière quand même assez peu flatteuse. Il est parfois ridiculisé dans le livre. Il a beaucoup de grands projets, mais finalement, pour l'instant en tout cas, au vu des deux tomes, rien ne se réalise. Comment est-ce que lui a appris la manière dont vous le représentez ?
Je vais, en fait, tous ces aspects de réaction de mes proches à l'histoire et aussi tous les événements futurs que je vais décrire, je vais les raconter dans l'album, dans les albums suivants.
D'accord.
Donc, je ne vais pas vous y répondre.
Rien du tout. Alors, il y a un passage qui est particulièrement touchant, c'est quand vous êtes à Palmyre et qu'on voit que vous mettez dans vos poches certains objets archéologiques. Est-ce que la manière dont la Syrie se porte aujourd'hui vous attriste profondément ? Pas forcément sur le plan de l'histoire, mais aussi sur le plan humain.
Ben bien sûr, c'est-à-dire en tant qu'être humain, moi je suis attristé par toutes les choses que je peux voir sur la misère humaine. Enfin, voilà, évidemment. Moi j'ai écrit ce livre avant que Palmyre soit au centre de l'actualité. Mm-hmm. La Syrie que j'ai connue, c'est vraiment la Syrie des années 80 qui n'avait pas grand-chose à voir avec la Syrie des années 90, ni avec la Syrie de la guerre à l'heure actuelle. Donc, pour moi, je ne connais pas bien la Syrie actuelle, en fait.
Ouais.
Je n'ai pas... voilà, moi, je raconte une époque, une période. Évidemment, c'est très, très attristant. Moi, le souvenir que je garde de la Syrie, c'était notamment de Palmyre. Mais c'était aussi présent dans mon village. C'était des lieux qui commençaient tout juste à être vraiment explorés archéologiquement et exploités touristiquement. Et... par exemple, quand vous allez à Naples, vous voyez, à Pompéi,
ouais.
Vous voyez très bien qu'à Pompéi, la vieille ville, elle est dans un trou, et juste, il y a une espèce de falaise comme ça qui tombe sur Pompéi, et de l'autre côté, on voit la ville moderne. Et en fait, il y a une épaisseur de 10 mètres de terre, et en fait, c'est les générations successives qui vivent les unes sur les autres, et sans prendre conscience de l'histoire sur laquelle ils sont assis.
Ouais.
Et il se trouve que dans mon village en Syrie, on ressentait cette chose-là. C'est-à-dire quand on marchait sur un tas de poteries, un tas de choses qui remontaient à très longtemps. L'histoire était sous nos pieds. En fait, je ne sais pas comment décrire mieux. Et à Palmyre, c'était très fort, ce sentiment. C'est-à-dire, il y avait des débris de poteries partout et personne ne les avait étudiés jusqu'à présent. Bon, en tout cas, on ne pouvait pas tout étudier. Voilà.
À travers votre livre, vous avez l'impression de donner une autre image de la Syrie que celle que les gens connaissent habituellement. C'était un de vos buts ou pas ?
Mon but, je n'avais pas de but de la sorte. Moi, mon but était vraiment de raconter la fascination d'un petit enfant pour un père un peu défaillant dans un régime politique très particulier et finalement assez méconnu, mais que moi j'ai connu par le prisme de l'intime. Et c'est ça que je voulais. Après, souvent, on me demande évidemment des avis généraux sur la société, sur la politique, qui sont assez inévitables, mais je ne sais pas quoi répondre d'autre que dans mes livres, je mets une succession de faits et je laisse le lecteur se faire son avis.
Vous pouvez nous expliquer la raison qui vous a poussé à représenter la Syrie dans les tons plutôt rouges et roses et la France en bleu ?
Quand j'ai commencé à me souvenir de ces années-là, en tout cas, c'est surtout parti des souvenirs de la Libye. Parce que je me rappelle que la Libye, c'était un souvenir des souvenirs très lumineux.
Qui est jaune.
C'est un pays très ensoleillé, avec il y a du sable, vraiment une sorte de désert très présent. Et c'était des souvenirs qui avaient une couleur jaune. Voilà. Et la Syrie, la terre du village était rouge et ferreuse.
Ouais.
Et donc j'en gardais une tonalité rose-rouge. Et la Bretagne, c'était le bleu de la mer. Et le côté un peu gris de la lande. Et je me suis dit qu'en fait j'allais diviser chaque pays comme ça en zones colorées pour bien essayer d'exprimer sensoriellement le dépaysement. C'est-à-dire que quand vous passez une journée dans une pièce éclairée en rouge et que vous sortez dehors, le monde vous semble vert. En fait, c'est un truc biologique que dans les cônes de l'œil. Alors je me dis, avec le style de dessin qui est le mien, on lit plein de pages en jaune. On s'habitue au jaune, on est dans le jaune. D'un coup, le style de dessin ne change pas, mais tout est bleu.
Ouais.
En fait, d'un coup, je crois que ça fait une forme de dépaysement. On ressent une autre ambiance générale. Et c'était ça que je voulais produire avec ce changement de couleur.
Je vous propose de passer à Charlie Hebdo.
Vous inquiétez pas, tout le monde me pose la question, il n'y a pas de souci.
Mais comment est-ce que vous réagissez au tiraillement actuel ?
Alors... moi, Charlie Hebdo, j'ai quitté le journal 6 mois avant la tragédie et je n'ai jamais vraiment fait partie de la rédaction du journal. C'est-à-dire que je n'ai jamais fait de dessin politique. Comme je vous le disais, je suis nul en commentaires politiques, nul en, en dessin de presse, etc. Donc moi je faisais une bande de dessinée qui s'appelait La vie secrète des jeunes et qui racontait des petites scénettes que j'avais vues dans la rue qui mettaient en scène des jeunes. J'ai quitté le journal parce que j'en avais marre de faire ça et pour rejoindre la rédaction du Nouvel Obs où je fais une nouvelle page de bande dessinée qui s'appelle Les Cahiers d'Esther. Ensuite, les événements qui se sont passés à Charlie, pour moi, c'est très difficile de les relier à un grand débat sociétal et un témoignage sur un grand débat sociétal qui m'est réclamé par tous les intervieweurs. On me demande qu'est-ce que vous pensez de Batati. Pour moi, les types qui se sont fait tuer à Charlie que je connaissais, c'était des mecs sympas avec qui je buvais des bières de temps en temps et que je n'avais pas vu depuis des années parce que j'envoyais mon dessin par Internet. Et je n'ai pas encore la capacité d'analyse suffisante pour vous répondre, vous donner une réponse éblouissante d'intelligence. Voilà. C'est vrai que tout le monde parle de ce sujet-là, tout le monde propose des avis sur le tout et rien. Moi, je ne sais pas quoi vous dire. Voilà. À part que je n'arrive pas à relier cette expérience avec un... C'est donner beaucoup trop de responsabilité et d'importance à des dessinateurs que de leur donner le drapeau comme ça. Bah, allez-y, vous avez la liberté d'expression, allez la défendre, allez faire donner votre avis. Enfin, moi, je parle de faits réels et c'est tout ce que je peux. J'ai déjà bien du mal à en parler. Mm-hmm. Je ne sais pas quoi vous dire. Est-ce que ma réponse vous satisfait?
En tout cas, je l'accepte comme elle est. Mais si on vous propose dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, d'intégrer la rédaction de Charlie Hebdo, est-ce que vous accepteriez?
Ça n'aurait aucun sens puisque je l'ai quitté avant. Donc ça n'aurait aucun sens que je
vous n'êtes pas attaché à ce projet, vous vous dites tiens, je pourrais apporter ma pierre à l'édifice.
Charlie Hebdo, c'est leur histoire. Voilà, moi j'ai fait partie de l'histoire de Charlie Hebdo à un moment, je l'ai quitté.
Ouais.
Je trouvais ça. En tout cas, moi je ne me verrais pas y retourner maintenant parce que ça marche ou tout ce que vous voulez.
Ouais.
C'est pas. Non, en plus. Mes envies d'auteur évoluent et comme je vous le disais, je ne fais pas de dessin politique, je ne fais pas de commentaires de l'actualité, donc ma présence à Charlie Hebdo était particulière, c'était une colonne de bande dessinée. J'en ai eu marre de l'affaire parce que je trouvais ça déprimant de raconter l'histoire de jeunes qui s'engueulent tout le temps. J'ai eu des envies d'auteur différentes, voilà.
Est-ce que vous vous empêchez de représenter parfois certaines choses, certains sujets?
Je pense qu'on s'empêche tout le temps, sans doute, de représenter des choses malgré nous. Moi, comme je raconte des faits qui se sont réellement passés ou de certains de mes souvenirs, j'essaie d'être le plus sincère avec mes souvenirs. Alors, évidemment, je les oriente. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très compliqué quand on a un style de dessin comme le mien, parce que c'est pas très compliqué, mais vous aurez toujours des gens qui trouve ça bizarre de dessiner un gros nez, par exemple.
Ouais.
Il y a des gens qui trouvent qu'un nez est trop gros par rapport à un nez normal. C'est comme quand on dessine les schtroumpfs, il y a des gens qui disent, mais anatomiquement, quand même, les schtroumpfs, c'est bizarre, leurs pieds, comme ils sont dans les gros haricots. Mais en fait, c'est toujours subjectif, la façon dont on interprète une histoire, dont on interprète un... Voilà, moi, c'est vrai qu'à chaque fois, je répète bien que je parle de faits qui me concernent, moi, ma vie intime, la vie intime de ma famille, surtout, et ma rapport familial. Et que ce n'est pas une encyclopédie sur le monde arabe, ça ne s'appelle pas thèse définitive sur les Arabes, ça s'appelle l'Arabe du futur, une jeunesse au Moyen-Orient. Donc forcément, j'omets certainement des choses, oui. Je n'ai pas la prétention d'être un dieu absolu qui raconte toutes choses.
Mais par exemple, est-ce que dans l'Arabe du futur, dans les tomes à venir, même si vous ne voulez rien dévoiler...
Je ne vous dirai rien, c'est même pas la peine de poser les questions.
Est-ce qu'on pourrait voir un jour une représentation du prophète ou ce genre de choses?
C'est pas mon travail, enfin, je veux dire, c'est pas le... Moi, j'ai jamais rencontré le prophète, je veux pas le dessiner.
Est-ce que vous faites l'objet de menaces?
Je ne vous dirai rien du tout.
Ok. Et est-ce que...
C'est pas ça bizarre de poser des questions comme ça? C'est assez étrange quand même. Quand il y a eu l'affaire de Charlie Hebdo, en fait, j'ai reçu des dizaines de demandes d'interview qui m'ont semblé souvent être des... Vous savez, on a l'impression que des gens ne s'étaient jamais intéressés à vous et ne s'intéressent qu'au côté un peu sensationnel du truc. Je trouve ça assez étrange de poser des questions.
Ah, mais ça permet de comprendre.
Oui, mais ça n'a aucun rapport, par exemple, avec l'Arabe du futur. C'est comme si il y avait un côté un peu sexy qu'on recherchait dans le... C'est vrai que moi, c'est en ça que je trouve que les choses ont changé depuis l'histoire de Charlie Hebdo. C'est qu'en fait, on pose des questions hyper bizarres. C'est-à-dire, il y a une espèce de demandes, de trucs un peu malsains, je sais pas, on voudrait qu'il se passe des trucs horribles tout le temps. Moi, je trouve ça assez choquant dans l'évolution Donc moi, j'ai jamais eu de menaces parce qu'il n'y a aucune raison que j'en ai. Je sais, c'est ça qui est très difficile à. Pourquoi est-ce que j'aurais des menaces? C'est pas. On a l'impression qu'il y a un côté très. Je sais pas comment dire. Moi, je trouve ça assez. Je suis assez choqué des questions qu'on me pose. Ouais, c'est des fois, ouais. C'est assez étonnant. Moi, je préfère parler que de mon travail.
Ouais, mais en même temps, vous vous décrivez.
C'est comme si vous me disiez, est-ce que alors. Vos grands-parents, alors qu'est-ce que c'est comme il y a un truc d'entrer dans l'intimité des gens, je sais pas comment.
Mais vous vous décrivez en même temps dans votre livre, donc ça permet aussi de comprendre votre univers.
Oui, mais ce que je décris dans mon livre, je parle d'une époque particulière.
Ouais,
de,
ouais.
Si vous me disiez, est-ce qu'à l'époque vous avez été menacé à l'époque dans la rade du futur? Oui, là je vous dirais.
Ouais.
Les autres enfants me menaçaient dans le village, en effet. J'avais peur de me faire péter la gueule, etc. Voilà.
Bon, venons-en à la relation qu'il y a entre les dessinateurs. Par exemple, Jean-Pierre Coffe, dans son dernier livre, dit qu'il y a une forte jalousie entre chefs. Est-ce que vous, entre dessinateurs, il y a une bonne ambiance ou pas?
Ouais, moi, je sais pas trop, en fait. Je fréquente pas trop de dessinateurs. J'imagine que peut-être qu'il y a de la jalousie, oui, quand un type a travaillé pendant 10 ans sur une BD et que personne ne parle de lui.
Ouais.
Sans doute. Je l'ai jamais ressenti consciemment. Enfin, quand j'avais eu le prix du meilleur album à Angoulême, la première fois, j'avais reçu des lettres racistes. C'est une des rares fois où on m'avait dit « Ouais, t'as eu le prix parce que t'es un arabe, etc. » Pas cette fois-là, hein, la fois d'avant.
Ouais.
Et donc, je pense que pour se plaindre du fait que j'ai eu le prix à Angoulême, ça ne peut être qu'un autre auteur. Donc,
ouais.
Je pense que c'est forcément une forme de jalousie.
Et vous êtes jaloux de certains auteurs? Est-ce qu'il y en a que vous enviez? Dessinateur, auteur.
Par exemple, jaloux. Non, je suis pas jaloux, mais j'envie le dessin génial d'Hergé, par exemple.
Ah ouais.
J'essaye de me dire, tiens, j'aimerais bien un jour être capable de dessiner comme Hergé.
Qu'est-ce qu'il a de particulier?
Je sais pas, il est clair, magnifique. Je sais pas, j'envie la capacité de dessiner d'un mec comme Blutch, par exemple, le dessin de Blutch. Je me dis, c'est vraiment un génie du dessin.
Ouais.
Mais après, c'est pas de la jalousie. Je leur souhaite pas. Je souhaite pas. Du mal.
Mais Hergé, justement, on voit qu'à un moment, vous représentez en tout cas un album de Tintin dans L'Art du Futur 2. Est-ce que c'était une sorte de clin d'œil? Vous vouliez lui faire...
Tintin a été très important parce que ça, comme je le montre dans ce second volume,
vous a permis d'apprendre français.
Ça a été un... celui qui m'a appris à lire, quoi.
Ouais.
Donc j'ai une énorme affection pour Tintin, pour l'univers de Tintin, et avec tout ce qu'il porte en lui de paradoxe et d'excès, c'est-à-dire que on lit Tintin, enfin moi j'ai lu Tintin toute mon enfance sans jamais me rendre compte qu'il n'y avait pas de fille par exemple, et on se dit mais comment on peut lire une bande dessinée comme ça pendant des années sans jamais être gêné qu'il n'y ait pas de fille.
Ouais. Il y a la Castafiore, mais qui n'est pas
oui
très,
mais bon c'est un homme,
ouais.
C'est une sorte d'homme déguisé en femme, quoi. Donc,
mais Tintin est très efféminé, il n'a jamais,
oui,
jamais de femme,
il n'a jamais de femme, il y a un,
moi,
y a
je
un
crois
mystère
que c'était une fille quand j'ai...
Ah, ben voilà. Et à l'adolescence, je sais que ça m'a choqué. C'était le moment où j'étais certain que voilà, je voulais devenir dessinateur d'heroic fantasy. Donc j'ai détesté Hergé. Et je l'ai retrouvé beaucoup plus tard, à l'âge adulte, en me disant qu'en fait, je trouvais ça hyper bien par les questionnements que ça provoque aussi.
Mm-hmm.
En tant qu'on se dit, mais pourquoi il n'y a pas de femmes? Pourquoi est-ce que les peuples étrangers sont représentés comme ça? Et en même temps, moi, mes cousins en Syrie, ils adoraient lire les Tintins, ils trouvaient ça génial, la façon dont les Arabes étaient représentés dans Tintin. Pour eux, ça ressemblait à leurs oncles. Donc, ils trouvaient ça excellent. Comment les gens... Enfin, voilà, c'est hyper bien. Moi, j'ai un amour immodéré pour Tintin.
Vous replongez régulièrement dans vos livres d'enfance?
Ah ouais. Moi, dès que j'ai... Là, avant de venir en Belgique, aujourd'hui, je sentais qu'on allait me poser des questions sur Charlie Hebdo et compagnie. Hier soir, j'étais dans mon lit et je lisais des Tintins pour me détendre la tête et que de devoir répondre toujours aux mêmes questions dans le... Voilà, et c'est extrêmement rassurant, en fait. Mais je pense que ça fait ça à beaucoup de gens. Hein. Les gens qui ont grandi avec Franquin, ils relisent souvent les Spirou. Moi, j'ai des copains qui sont complètement... On a tous un peu le même... Je sais pas, vous, est-ce que ça vous fait... Vous réalisez Tintin, des fois, vous?
Ouais.
Voilà.
Moi, j'ai jamais replongé dedans, mais j'ai plein de bons souvenirs.
Et Astérix.
Ah ben voilà.
Vous dites que les Arabes dans Tintin ressemblent aux oncles de vos amis.
Ressemblaient,
ouais. Est-ce que vous avez parfois perçu une forme de racisme comme Hergé a été
dans Tintin?
Ouais, décrié.
Moi, dans mon point de vue, jamais vraiment, quand j'étais enfant, non.
Ouais. Et maintenant
bon, c'est évident qu'il y a des représentations un peu limites dans Tintin. Dans Tintin au Congo, c'est quand même... Y a quand même des... C'est une autre époque, voilà. Pour moi, c'est difficile de... Je sais pas quoi dire. Bon, je suis pas pour l'interdiction de Tintin au Congo.
Ouais.
Je pense qu'au contraire, je trouve ça hyper bien d'utiliser Tintin pour expliquer les stéréotypes du racisme d'une époque. Voilà, qu'est-ce que représente le missionnaire à cette époque-là? Moi, je sais que quand j'étais. J'ai la première fois que j'ai lu Tata en Congo, je ne connaissais absolument pas l'histoire de l'Europe. Je ne savais pas du tout que la Belgique avait eu une colonie congo-belge. Je ne savais même pas ce que c'était que cette espèce de missionnaire qui aidait Tintin. C'était un univers très étrange, quoi. Mm-hmm. Je crois que c'est intéressant d'éventuellement saisir l'occasion de ces albums pour apprendre l'histoire de l'évolution des mentalités. Mm-hmm. Voilà.
Est-ce que, une fois que les 4 tomes de l'Arbre du Futur, s'il y en a 4, seront sortis, est-ce que ça peut déboucher sur un film d'animation ?
Je sais pas. Franchement, je suis pas capable de vous répondre pour l'instant.
Ça vous plairait ? Parce que vous avez fait des études en animation.
Oui, mais c'est-à-dire que je sais pas la taille de l'histoire, l'ampleur de l'histoire, ce qu'elle va... Merci. Je ne sais pas quelle période elle va recouvrir.
Ouais. Est-ce que vous avez l'impression que c'est le projet le plus abouti jusqu'à présent de Riyad Sattouf, l'Arbre du Futur ?
Je ne sais pas à moi de juger de ça. Je
non.
Ne sais pas du tout.
Vous en êtes fier ?
Mais moi j'aime bien tous les trucs que j'ai faits. C'est
ouais.
Comme des enfants, voilà. Ils ont chacun le.
Préférence.
J'ai pas de préférence.
Ok. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Vous avez le temps ? Ouais.